Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur un marché. Dans cet épisode, nous explorons les coulisses du droit fiscal avec un invité spécial, Olivier Janoré, associé chez Arsène, dont la carrière illustre parfaitement la complexité et la richesse de cette discipline. De ses débuts universitaires jusqu'à son ascension en tant qu'associé, Olivier nous partagera son parcours, ses choix et ses perspectives sur l'avenir du droit fiscal. Sa vision sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que ses conseils sur la prise de décision dans les moments de doute, sont captivants. Un échange qui s'annonce riche en réflexion et aussi instructif qu'inspirant. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Agathe Curis et Olivier Janoré.
Bonjour Olivier.
Bonjour Agathe.
Merci beaucoup d'être venu. Nous rendons visite aujourd'hui chez Anomia pour participer à ce podcast. Alors, pour la petite histoire, Olivier, nous, on se connaît un petit peu plutôt côté familial. Donc, je suis ravie d'en apprendre plus sur ton parcours professionnel aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, moi, je t'aurais plus vu pénaliste ou je ne sais quoi. Et puis non, t'es devenu avocat fiscaliste. Alors, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a mené à ce choix.
Question très directe pour commencer.
Bam, attaque.
Presque un préjugé.
Non, mais c'est parce que t'as du bagou, donc je t'aurais bien vu défendre la veuve et l'opprimé.
Ça a été une discussion intérieure.
Ah,
réellement, en plus.
Tu vois.
C'est pas construit pour répondre à cette question particulièrement, mais dans les études de droit, il y avait deux domaines qui m'intéressaient particulièrement. Le droit pénal et le droit fiscal, pour des raisons complètement différentes. Le droit pénal, parce que ça ressemblait à ce qu'on pouvait connaître En tout cas, imaginez quand on est de l'extérieur, qu'on n'est pas encore ni dans les études, ni dans les stages et tout ce qui va autour, avec un peu objection votre honneur qui n'arrive pas du tout chez nous en France, mais c'est ce qu'on a dans l'idée. Et le droit fiscal, pourquoi ? Parce que le droit fiscal a cet attrait de la technicité.
D'accord.
Et donc, c'est vraiment la jungle intellectuelle qui est autour du droit fiscal qui l'a emporté. Si je suis complètement honnête, il y a quand même un moment où on se dit, quand on devient pénaliste, les années peuvent être longues, très très longues avant d'arriver à quelque chose potentiellement, là où le droit fiscal, on va dire que c'est plus normé. et il y a une question de sécurité très probablement qui a poussé dans ce choix, mais les deux étaient dans la balance.
Très bien. Tu avais fait des stages un petit peu en pénal et tout ou...
Pas du tout, pas du tout. En revanche, dès la première année de droit, j'ai fait des stages dans un cabinet d'avocat un peu pluridisciplinaire, alors pas du tout orienté pénal, mais aller se balader après dans le palais où on voyait des choses et d'autres. Donc c'était bien loin du droit fiscal, parce que le droit fiscal n'est intervenu en réalité qu'à la quatrième année, enfin troisième année de droit et surtout quatrième année. Donc les premières années, on regardait un peu tout ce qui se passait. Donc, ce n'est pas du pénal, mais ce n'était pas du fiscal et j'avais trouvé ça intéressant.
Très bien. Et cette envie de devenir avocat, elle date de il y a longtemps. Tu t'es retrouvé dans des études de droit par hasard ou...
Elle date de toujours, tant que je m'en souvienne. Pas parce que mes parents sont avocats, pas du tout. Les deux sont médecins. Dans la famille, il n'y a pas d'avocat plus que de raison. Mais les thèmes autour de l'éducation civique, la société, c'est toujours quelque chose qui m'a fortement guidé et il y a eu un attrait pendant ces études-là. Et donc, très rapidement, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. D'autant plus que je m'étais convaincu du fait que je n'étais pas extrêmement bon à l'école. Je n'étais pas bon. Je ne m'y intéressais pas énormément et je me satisfaisais d'une remarque intérieure qui était de dire, mais de toute façon, en fac de droit, on fait d'autres matières. Donc, tout ce que j'apprends là ne me sert à rien et on verra plus tard pour travailler.
Pas mal comme excuse.
Je ne pense pas que ça soit vrai parce qu'il faut apprendre à lire, à écrire, à comprendre notre environnement pour naturellement progresser dans le domaine du droit. Mais voilà, c'était comme ça que je m'étais convaincu. Mais très, très jeune, en réalité, dès le collège, j'avais cette idée-là de partir à l'université de droit.
Et lorsque tu débarques justement à l'université, tu as commencé où toi, Taël?
À l'université de Bourgogne, à Dijon.
Ok. Et donc, tu débarques à Dijon, L1 de droit.
Non, je ne débarque pas à Dijon parce que non, je suis née à Dijon.
À Dijon.
Tu pourrais t'en souvenir quand même.
Ça, je sais. Tu débarques sur les bancs de l'université de Dijon.
Voilà, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais depuis tout petit, finalement?
Alors, il faut espérer que mon père n'écoute pas ça parce que je vais tout raconter.
Oh là là, on n'allait pas beaucoup à la fac.
Le premier, il faut savoir quand même, alors en tout cas à l'époque, je ne sais pas pour aujourd'hui, le premier semestre de droit, il commence à peu près vers le 15 octobre et les examens étaient vers le 15 décembre. Donc, un semestre qui fait deux mois, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et forcément, arrivant à l'université, on est très attiré par tout ce qui se passe en dehors de l'amphithéâtre. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, en réalité, à l'université, mais sans être en cours. Et il s'est avéré qu'en travaillant un peu l'examen, mais pas non plus que ça, j'ai eu des notes très correctes.
Oh là là, quel talent.
Non, mais c'est complètement imbuvable ce que je dis, je suis d'accord. Mais réellement, de toute la scolarité avant, bon, je bossais un peu, j'avais entre 10 et 11, etc. J'étais vraiment dans le ventre mou de chaque classe par laquelle je suis passé. Et là, à l'université, j'avais le souvenir, mes premiers semestres, où j'arrive à 12,5-13, sur les centaines d'étudiants, je suis dans les 20 premiers, etc. Je m'y attendais pas. Mmh. Et ça a été un peu révélateur, qui était de dire, finalement, cette matière, elle est peut-être vraiment faite pour moi. Et là, j'ai switché en disant, bon, c'était bien marrant, pendant 2-3 mois, à pas faire grand-chose. Et j'ai commencé à m'y mettre, j'ai commencé à suivre les cours, à les travailler. Et chaque année, en travaillant un peu plus, les notes ont suivi dans le même trend. Donc voilà, l'amour total a été accompli à l'Université de Bourgogne entre les matières du droit et moi.
Et donc, Université de Bourgogne, tu fais ta licence là-bas?
Alors, je fais les 4 premières années.
Ah, les 4 premières années, puisque c'était
licence et master 1. Ouais. avec Master 1. Ouais, je suis resté à Dijon pour des raisons très personnelles, puisque mes parents divorçaient à ce moment-là. Et mon grand frère était déjà parti de Dijon. Et il y avait un côté où je n'avais pas envie de quitter, notamment mon petit frère, le petit dernier. Oh. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison de partir par ailleurs. Il y avait le côté personnel et le côté étudiant, où l'Université Bourgogne était une université très réputée. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est placée, mais à l'époque, en droit, elle était très réputée. Donc, il n'y avait pas de raison particulière. Et un autre constat, c'est qu'il faut mieux être dans les premiers sur une plus petite fac que dans le ventre mou sur une grosse fac.
Oui, complètement. Et être démotivé avec des sales notes dans une grosse fac.
Potentiellement. Mmh. Et puis, c'est sympa de connaître tout le monde, d'être assez proche des professeurs, parce que voilà, c'était le cas. Je ne sais pas du tout à Paris comment c'était en Master 1, mais il y avait une connexion qui se faisait assez simplement entre étudiants et professeurs, donc c'était agréable. Et moi, ça m'a permis derrière, en Master 2, de postuler dans 4 endroits, d'être pris aux 4 endroits et de choisir. Donc,
pas mal.
Le choix était bon.
Donc, Master 2, si je ne dis pas de bêtises, Assas.
Assas, Master ouais. 2, droit des affaires et fiscalité. Je reste ouvert, je ne fais pas que de la fiscalité. même si j'étais déjà intimement convaincu.
Un peu geek de la fiscalité.
Voilà, un peu convaincu d'aller sur ce terrain-là. Et c'était plutôt des commentaires de personnes que j'avais pu croiser dans les mois et les années qui précédaient, d'essayer de garder une certaine ouverture, même si ça restait du droit des affaires et de la fiscalité, donc ça reste quand même déjà dans une voie dessinée, et là, pas complètement sur la fiscalité, c'était, j'allais dire encore une fois, le bon choix, mais c'est facile de le dire après, sur le coup, c'était une bonne idée d'aller à Paris. Puisque j'avais postulé à Nancy, à Dijon et deux à Paris, à Sas et à Sorbonne. Et le choix s'est très vite fait sur l'Université de Paris, parce que compte tenu du métier que j'imaginais embrasser, il était pertinent d'être à Paris à ce moment-là.
Ok. Donc, Master 2 à Sas. Et après, tu passes le barreau directement après ?
Exactement, fin du Master 2, école de... je ne sais pas si ça s'appelle une école, mais pré-barreau, là.
Ah, la petite prépa, rue d'Assas.
Je ne sais même plus si elle s'appelait pré-barreau.
Dans les locaux de la Cato, non ?
Je ne sais plus, je t'avoue que ma mémoire a effacé cette période-là. C'est vraiment le seul moment dans nos études où on trime, parce que j'ai passé 3 mois à ne faire que ça, du matin jusqu'au soir. J'en serais pas capable aujourd'hui. Et heureusement que ça ne se fait qu'une fois. En tout cas, moi, je...
Oui, ça ne se fait qu'une fois pour les plus talentueux.
L'ayant eu le premier coup, ça ne s'est fait qu'une fois. Je souhaite à personne d'avoir à le faire 2 ou 3 fois, parce que c'est assez... C'est pesant comme moment, mais quand on l'a, on l'oublie vite, donc tout va bien. Et donc oui, donc pré-barreau, juillet, août, septembre, examen en septembre, oraux novembre, école d'avocat, 1er janvier.
Donc EFB ?
EFB, l'ancienne EFB, rue de Charenton, côté de la Bastille.
Ah !
Ah oui, je suis plus vieux que tu ne le crois.
Donc je sais ton âge, mais je ne savais pas que l'EFB était là il n'y a pas si longtemps, justement, parce que tu n'es pas si vieux.
Alors, je ne suis pas si vieux, c'est gentil, mais j'ai passé quand même l'examen en 2008.
Ah oui, avant que j'aie mon bac.
Donc voilà, c'était il y a 15 ans maintenant.
En effet. Et alors, l'EFB rue de Charenton, ça donnait quoi ?
L'EFB rue de Charenton, on ne va pas beaucoup rue de Charenton, hein, parce que sur 18 mois d'école, il y a déjà un an, il y a 12 mois de stage. Une première période de stage de 6 mois au Conseil d'État dans une sous-section orientée fiscalité.
Ok.
Voilà. Après, j'ai décidé de faire l'alternance vacances. Donc, cours EFB, vacances, cours EFB, vacances, pendant 6 mois. Il faut voir que les cours EFB sur 6 mois, c'est à peu près, à l'époque en tout cas, 2 mois et quelques de cours. Donc, ça m'a laissé quelques vacances avant d'enchaîner sur un stage dans un cabinet anglo-saxon où j'ai bien fait de faire de l'alternance vacances et tout ça. Et voilà, où j'ai fait la dernière touche à mon CV avant de commencer en tant qu'avocat.
C'était où ce stage final ?
C'était dans le cabinet Sullivan & Cromwell, qui est un okay. cabinet américain.
En fiscalité ?
En fiscalité, toujours. À partir du Master 2, je n'ai fait que des stages en fiscalité.
Ta passion s'est confirmée.
Et ma passion s'est confirmée, elle se confirme chaque jour.
Oh, c'est beau. Donc, chez Sullivan, ça. Et à l'issue de ce stage, tu te dis, bon, les gros cabinets...
Non, à l'issue de ce stage, j'ai tout fait pour être embauché là-bas.
Ah.
Et j'osais dire que mes qualités n'étaient pas remises en cause, mais il y a eu une bagarre de chapelle.
Okay.
Et où l'un voulait m'embaucher et l'autre ne voulait pas. Et comme il n'y a pas eu consensus... Et a priori, l'autre ne voulait pas parce que le premier voulait. C'était pas contre moi. Non mais voilà. Bon, après, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ressenti et un peu entendu. Ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais voilà, c'est une histoire qui ne m'a pas concerné. Et en même temps, j'étais un peu un dommage collatéral. Mais au final, bien m'en a pris, puisque parallèlement, j'ai postulé, comme on fait tous quand on est en stage final, c'est-à-dire que même si ça se passe bien là où on est, on postule quand même ailleurs. Oui. Quand j'avais su que Sullivan et Cromwell réfléchissaient à me conserver, j'avais envoyé que quelques CV, et vraiment quelques, j'ai dû en envoyer 3-4. Ça m'a permis de passer 2-3 entretiens, dont chez Arsène, où je suis aujourd'hui, 13 ans plus tard, et chez Arsène, ils m'ont dit oui tout de suite, et donc je m'étais dit intérieurement, bah maintenant, comme j'ai dit oui à un cabinet, ça sera Sullivan ou Arsène, et j'ai arrêté de postuler où que ce soit ailleurs.
Et finalement,
fin juin, j'ai terminé chez Sullivan, le 4 octobre 2010, j'ai commencé chez Arsène.
Et a priori, comme tu le disais à l'instant, vu que 13 ans plus tard, tu y es encore.
Exactement.
C'est que ça s'est pas si mal passé.
Et ça s'est très bien passé. la vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. En 13 ans, on en voit passer des choses. On a des périodes de doute et de remise en question. Mais voilà, 13 ans après, je suis toujours là, toujours très motivé, toujours à aimer la matière que je pratique tous les jours. Et voilà, au bout de 10 ans, je suis passé associé. Donc j'ai pu progresser. À l'intérieur de la structure, sans trop plafond et de limites.
Et alors, si on reprend justement cette expérience chez Arsène et qu'on décortique un petit peu les étapes, déjà, d'un point de vue purement professionnel, domaine d'intervention, etc., est-ce que tu es toujours intervenu à peu près sur les mêmes sujets, avec de plus en plus de techniques, j'imagine, ou est-ce que tu es passé de département en département? En restant fiscal, évidemment.
Alors, la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. dans le sens où chez Arsène, c'est un cabinet qui a été créé en janvier 2004, qu'on va fêter les 20 ans là dans quelques semaines. Et au départ, ils étaient 7, ils étaient 2 associés. Et leur seul axe de matière, si je puis dire, c'était de la fiscalité des entreprises.
Ok.
Et le cabinet s'est développé autour de ça. Après, il y a d'autres associés qui sont venus, notamment en TVA, en douane, en fiscalité immobilière, notamment, donc d'autres pans de la fiscalité.
Du coup, lorsque tu es arrivé, toi, ils étaient combien?
Moi, quand je suis arrivé en 2010, ils étaient à peine 40.
Ok. Et aujourd'hui, 200 et
quelques? On est à peu près 180.
Ok.
Restons modestes.
Attention.
Bien sûr. 180, dont 130-140 avocats. Donc voilà, une sacrée évolution, même en 13 ans. Déjà en 7 ans avant que j'arrive, passer de 7 à 40, c'est quand même des seuils qui sont toujours loin d'être anecdotiques. Et de 40 à 180, pareil, c'est des sacrées évolutions dans le quotidien, dans la structure, dans la relationnelle avec tout à chacun. Donc, belle réussite. Dite de façon extérieure, si je ne devais que donner un sentiment là-dessus, c'est une très belle réussite que l'idée qu'ils ont eue au début de créer un cabinet spécialisé en fiscalité et qui ne fait que ça. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. On ne fait que de la fiscalité, rien que de la fiscalité.
Et du coup, oui, je t'ai coupé en parlant de chiffres et d'évolution. Quand tu me parlais justement du fait qu'au départ, c'était que de la fiscalité des entreprises et puis que ça s'était développé autour de ça.
Et donc moi, quand je suis arrivé, j'ai naturellement commencé dans le secteur de la fiscalité des entreprises. J'ai fait beaucoup ça, de 2010 jusqu'à 2012. Et en 2012, il y a eu François Hollande qui arrivait au pouvoir. À ce moment-là, il y a un certain nombre de groupes pour lesquels j'ai pu travailler qui réfléchissait à toutes les incidences du programme de François Hollande en matière fiscale pour les entreprises et pour leur management. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai commencé à m'intéresser à la fiscalité du management. Et petit à petit, en réalité, j'ai bifurqué vers la fiscalité patrimoniale au sens large, puisque aujourd'hui, dans mes clients, ce sont aussi bien des familles, des entrepreneurs, des entrepreneuses, du top management de société, mais ce ne sont plus vraiment des structures opérationnelles. Okay. Je ne fais plus de fiscalité des sociétés plus que de raison, c'est-à-dire qu'après, une famille a souvent des structures de détention avec des opérations à gérer autour de ces structures-là. Et c'est une fiscalité que j'aborde. Mais en revanche, le quotidien d'une société avec ses questions de TVA, de CET ou autres types d'impôts, impôts sur les sociétés, intégration fiscale, ce n'est pas forcément des sujets que je gère au quotidien.
Ok, ouais, ce sont plus de personnes qui viennent te voir à titre perso, quoi, enfin, pour leur grande fortune, grosso modo.
Pour la gestion de ce qu'ils ont créé, pour certains, parce qu'une fois que vous avez créé votre entreprise, il y a la question des autres moments de cette entreprise qui peuvent être anticipés, la cession, la restructuration, l'intégration de nouveaux associés, de la construction en achetant d'autres entreprises concurrentes en la matière. Il y a les questions de transmission, naturellement, mais voilà, c'est vraiment tout cet ensemble-là qu'on est amené à traiter aujourd'hui.
Très bien. Et alors, tu disais, tu as été nommé associé au bout de 10 ans, donc il y a 3 ans.
En janvier 2021, exactement.
Ok, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Comment s'est passé ton parcours, justement, jusqu'à devenir associé? Comment ça se passe chez Arsène? Il y a un partenaire très clair ou...
Il faut savoir, Arsène, même avec son nom, c'est un cabinet français. Donc, un track très clair dans un cabinet français, c'est un peu antinomique. Et je le dis en toute sympathie. Donc non, il n'y a pas du tout de track très clair. Au fur et à mesure des années, il y a un système qui a été mis en place, parce qu'ils étaient deux associés, on est 25 aujourd'hui. Donc forcément, plus on se construit, plus on repousse côté artisanal et plus on essaye de mettre des règles pour que ça soit lisible. Après, les règles ne permettent pas forcément de délimiter le chemin au millimètre près sur plusieurs kilomètres et sur une dizaine d'années en tout cas, mais ça donne quelques axes directionnels. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu la chance en réalité en arrivant au cabinet en 2010. Alors de façon étonnante, parce que ce que je vais dire peut être contradictoire, j'ai passé les 3 premiers mois les plus horribles de ma vie.
Ah oui ?
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'on te faisait trop bosser ? Parce qu'ils n'étaient pas gentils ?
Pas parce qu'on me faisait trop bosser. Bon, je bossais, mais j'étais venu pour bosser, donc je n'avais pas trop de difficultés à ça. Non, c'est simplement cabinet français. Il y en a qui étaient en stage qui sont restés. Il y a des juniors, des seniors qui sont là. Ils m'ont vu comme étant un peu... Ah, tu viens de chez Sullivan et Cromwell, un cabinet américain. Si tu es là, c'est que tu n'avais pas envie d'être là, en réalité. Tu avais envie d'être ailleurs. Tu es là par défaut. Et donc, j'étais un peu le vilain petit canard. Pas très agréable comme situation. Et je me souviens
en avoir... Donc, tu t'es fait un peu bizuter.
alors, pas bizuter dans le sens où on le connaît aujourd'hui. Mais c'est simplement que, on va dire que je n'ai pas été accueilli d'une façon extraordinaire. Loin de là. Et j'ai le souvenir parce que j'allais même au cabinet, la boule au ventre, j'avais qu'une envie, c'était de partir, etc. J'en parlais beaucoup avec mon père à l'époque et qui m'a motivé quelque part à laisser le temps passer et à persévérer. Et ce qui s'est passé, c'est que entre Noël et le jour de l'an, moi j'avais pas posé de vacances. Sur 40, le cabinet était quasi vide. Et il n'y avait à ce moment-là que le managing partner qui a eu une mission à faire à ce moment-là. Et donc, c'est tombé sur moi, pas parce qu'il m'avait identifié en disant que je devais être extraordinairement intelligent, mais plus parce que j'étais là. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très bien passé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai énormément travaillé avec lui, quasiment exclusivement travaillé avec lui. Bon, ce qui ne m'a pas aidé avec mes autres camarades, tout de suite, parce qu'on te regarde d'un mauvais œil, et puis en plus, tu travailles avec le managing partner.
C'est bien le chouchou du managing partner.
Voilà, il y a un moment où on se pose des questions. bon, quand il s'est avéré qu'en plus, le neveu du managing partner est un des meilleurs amis de mon grand frère, bon, tu vois,
oh
tout
là
ça,
là
tu
là
te
là
dis...
Oh, quelle mafia qu'est,
voilà, quelle diaspora, en tout cas. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un vrai effet cliquet pour moi parce que j'ai été mis devant une autonomie importante très jeune, mis devant les clients très jeune, parce que c'était aussi le leitmotiv d'Arsène à l'époque. Arsène à l'époque, on était 40, on avait du travail pour 60. Mmh. Donc, on ne regardait pas la vitesse de la voiture. On avançait, c'est tout, quoi. Il fallait y aller. Il y avait du boulot, on le faisait. On enchaînait ouais, les heures, les nuits. C'était assez dans un climat un peu start-up, quelque part. Ouais. Et le tout avec une matière fiscale qui peut paraître assez... Ça peut paraître étonnant de marier les deux termes. mais voilà. Et donc, c'est comme ça que, moi, ma carrière s'est construite. Elle s'est construite autour de Frédéric de Neudvab, qui était celui qui a créé le cabinet, l'un des deux qui a créé le cabinet. Et c'est petit à petit, comme tu le sais, avec mon franc-parler, je lui ai très très vite parlé d'association. Je pense que je n'avais même pas passé une année avec lui que déjà je lui parlais de « alors c'est où, quand, comment, pourquoi ?» Et on a fait ça en réalité pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on en a parlé de façon régulière. Ce n'était pas un débat du oui ou du non, c'était pas si, c'était quand. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça.
Ouais, c'est vrai que je me souviens de toi me parlant d'association assez rapidement.
Parce que je pense que notre métier est conçu comme celui-ci. Notre métier, même si certains l'exercent via le statut de salarié, je ne pense pas que ce soit l'idée même de notre métier. À la base, on est des individualistes. Chacun est censé avoir posé sa plaque dans un coin de rue et travailler toutes les matières du droit. Bon, la vie fait que il y a des cabinets qui se sont créés, qu'on s'est mis en collectif, etc. Mais il faut réussir. Et je dirais, ça, c'est le parcours le plus compliqué dans la vie du collaborateur. Et moi, c'est le parcours que je veux absolument que mes collaborateurs, collaboratrices prennent. C'est comment ils acquièrent une liberté professionnelle. Comment on fait en sorte qu'ils deviennent autonomes sur les dossiers, dans la gestion aussi bien du client d'un point de vue humain, l'empathie et tout ce qui peut y aller, que sur l'approche technique, pour faire en sorte que le jour venu, si ce jour vient et qu'on se pose la question de qu'ils deviennent associés ou qu'elles deviennent associées du cabinet, si cette personne dit oui, c'est pas parce que j'ai pas d'autre solution que de rester avec vous, je pourrais faire tout ce que je veux. Si j'ai envie d'aller poser ma plaque, je peux aller poser ma plaque. Si je vais rejoindre un cabinet parce que j'ai des clients, je vais rejoindre un cabinet. Si j'ai envie de rester, je reste. Et en réalité, je reste parce que j'en ai la liberté. C'est un peu comme le mariage. L'un des piliers du mariage catholique, en tout cas, étant la liberté, on se demande mais quel est le principe de la liberté quand on se contraint. Mais en réalité, on accepte, on choisit d'aller rentrer dans ce schéma-là. Et c'est un peu le même style autour de l'association. On se marie d'une certaine façon avec un certain nombre d'associés, avec une structure qu'on a plus ou moins aidé à façonner avec le temps, et il faut le faire en pleine liberté.
Et le fait d'acquérir cette liberté, cette autonomie professionnelle, etc., est-ce que ça passe, tu disais que tu faisais attention à ce que tes collabs aient cette liberté aussi, et l'habitude de parler aux clients, etc. Est-ce que ça passe aussi par le fait de leur laisser un peu de temps pour développer leur clientèle perso ? Est-ce que toi, tu as eu un peu de clientèle perso avant d'être associé ?
J'en ai eu plus qu'un peu. Et surtout, je l'ai eu parce que la personne avec qui je travaillais avait des dossiers où il considérait que ce n'était pas au cabinet de les prendre et donc il me les envoyait. Okay. C'est vrai que ça lui permettait de me donner un bonus sans avoir besoin de discuter avec ses autres associés de comment on place lui par rapport à lui, etc. Donc ça, c'était très bien. Moi, je pousse les collaborateurs, collaboratrices à avoir des dossiers perso. Pas nécessaire, pour avoir un peu plus d'argent, très bien, c'est une bonne idée. Mais surtout, c'est qu'à ce moment-là, tu te retrouves face à toi-même dans la gestion du client, dans la gestion technique, comment tu suis ça au fur et à mesure de l'évolution de ta relation avec le client, qu'est-ce que tu lui apportes, surtout parce que ça arrive nécessairement, il y a des zones de tension, comment tu réagis à ces zones de tension, quelles soient des zones de tension simples, c'est-à-dire, bon, ben, il y a un problème avec les honoraires, bon, pire, tu ne touches pas ce que tu imaginais toucher comme honoraire, mais ce n'est pas très grave. Ou il y a un problème, on me reproche quelque chose que je n'aurais pas fait ou que je n'ai pas fait. Après, ça, la différence se fait. Et dans ces cas-là, bah, c'est intéressant aussi d'être en première ligne. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que ça, c'est aussi ce que je leur dis, ça ne veut pas dire que s'ils se retrouvent dans cette situation-là, il faut qu'ils restent en première ligne et tout seul, parce que c'est comme ça que tu te grilles. Donc, il faut pouvoir en parler à ce moment-là. Et moi, je suis toujours disponible pour pouvoir justement discuter de ces situations et de voir comment en sortir. Parce que ça fait aussi partie de notre métier. On est tous humains. La matière est extrêmement complexe. Les clients peuvent être tout aussi complexes. Donc, voilà, tout est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un bouquin qu'on ouvre. Hein. C'est un vrai quotidien.
Et du coup, toi, tu les gères comment, ces situations conflictuelles avec les clients? Quels sont les sujets récurrents? On a tendance naïvement à croire que c'est le prix, mais est-ce que c'est finalement...
Les sujets récurrents, si, il y a toujours le... c'est cher, c'est toujours trop cher, de toute façon. Après, on a toujours tendance à dire qu'un bon conseil est toujours moins cher qu'un mauvais conseil.
Et tu factures comment, toi?
En euros. comment on facture? Ça dépend en réalité des missions. Il y a des missions qui se budgétisent. Mm-mm. Et dans ce cas-là, tu donnes un peu une fourchette qui s'applique in fine. Et après, il y en a certaines où c'est juste impossible de savoir combien de temps on va passer. Et donc, on a des taux horaires et on explique les taux horaires. Il peut y avoir des petites surprises, oui, mais parce qu'en même temps, les clients, ils ne sont pas forcément tous habitués à avoir affaire à des avocats, à gérer la question de l'honoraire, à gérer le fait que tout n'est pas sur une étiquette en bas du bien qu'on achète. C'est pas le frigidaire et le frigidaire qui ouvre 999 euros.
Comment ça, tu ne vaux pas le même prix qu'un frigidaire?
Non, mais ce que je veux dire par là, voilà, c'est que ça ne se gère pas de la même façon. Et la complexité aussi, c'est le temps qu'on passe, c'est immatériel. Dire que pour un sujet, j'ai passé 3 heures ou j'en ai passé 5, il n'y a personne à part moi qui peut le dire. Et la personne qui est en face a toujours le sentiment que tu as passé trop de temps dessus, potentiellement, quand tu sais que chaque minute a un prix. Mais voilà, ça,
ouais, c'est... Ouais, mais tu vois, si on compare au médecin, moi, personnellement, je vais chez le médecin, je ne me demande pas du tout le temps qui passe sur mon dossier, je me dis juste...
Non, mais le médecin, tu as la sécu, tu as ta mutuelle, ouais. Ce qui fait qu'au bout du bout, c'est là où, mais ça c'est un autre sujet qu'aujourd'hui, qui est de dire qu'il faudrait bien connaître le vrai prix de la médecine qu'on a à supporter par rapport à ce qui est pris après en charge par la sécu ou par tes mutuelles, parce que tu t'en rends pas compte.
Oui, bien sûr, mais je peux complètement aller voir un médecin qui vaut plus cher parce qu'on m'a dit que c'était le pont dans sa spécialité et avec des dépassements honoraires qui sont pas pris en charge par ma sécu.
Mais parce par ta mutuelle.
Par ma mutuelle, pardon, excuse-moi. Non, justement, qui ne sont pas pris en charge par ma mutuelle, qui n'est pas terrible. Mais, et me dire, ça vaut le coup parce que je sais que j'ai le top du top et je suppose que toi aussi, tu as des clients.
Malheureusement, on n'arrivera pas à faire le parallélisme avec la sécu. Je suis navré, mais.
Que tu voulais pas rentrer dans ce...
dans l'absolu, c'est une question d'habitude et de comprendre la valeur de ces choses-là. C'est pas évident, et de la même façon que c'est pas évident parce qu'il y a des cabinets ou des associés qui sont à 200 euros de l'heure et t'en as d'autres où ils sont à 600 et t'as des cabinets anglo-saxons où ils sont à 1200 euros de l'heure. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Je suis pas sûr que l'écart entre le pont et le médecin généraliste soit aussi potentiellement aussi fort, mais bon.
Ok, c'est bon.
Voilà.
On abandonne.
Tout ça pour dire que c'est un sujet qui peut y avoir, un petit sujet de friction qui peut y avoir. Après, les sujets, c'est quand sur un dossier il y a quelque chose qui a pas été vu, ou quand on est plusieurs sur un dossier, plusieurs intervenants, on peut penser que c'est un autre qui devait intervenir là-dessus. Donc, tu ne fais pas quelque chose qui avait pourtant été identifié et qu'on vient de dire que c'était à toi de le faire après. Bon, là, tu dois reconstituer un peu l'historique pour remettre un peu l'église au milieu du village et comprendre s'il y a une responsabilité, faut la prendre. Mais s'il n'y en a pas, on n'est pas non plus, on n'est pas des assurances. Hein, donc, voilà, ça reste un métier où c'est une obligation de moyens.
N'est-ce pas?
Voilà. Et encore plus en matière fiscale, parce qu'en matière fiscale, il existe pas de certitude dans beaucoup, beaucoup de domaines. C'est tout le débat qu'il peut y avoir, qui est plus politique, qui est plus journalistique, entre la fraude, l'évasion, l'optimisation, tous ces termes-là. Bah, en réalité, c'est aussi lié au fait que la loi ne soit pas suffisamment claire ou suffisamment transposable à des différents types de situations sans être interrogative.
Ok.
On ne sait pas forcément tout. Je sais, c'est un...
Waouh, wow, un mythe qui s'effondre.
C'est tout le pan d'une, d'un beau mirage, mais ça s'effondre toujours un peu.
Et alors, du haut de tes 13 ans d'expérience, comment t'as vu le métier évoluer ou l'ambiance dans les cabinets? Est-ce que t'as vu le métier et l'ambiance évoluer ou pour toi, tout est toujours pareil?
Alors, je pense que le métier évolue et il évolue assez drastiquement. Et il va beaucoup évoluer. Ça, c'est mon intime conviction. On en parle dans 10 ans et on verra.
Allez, on prend les paris.
Non, non, parce que sur les 20 dernières années, on était beaucoup dans un relationnel un peu strict, un peu sévère entre associés, collaborateurs, collaboratrices. Il y avait un peu le côté où on était vraiment totalement à la merci, où on donnait tout pour sa structure et pour l'associé avec qui on travaillait. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de retour, notamment financier en la matière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est recherché par la plupart de celles et ceux qui rentrent dans cette profession. Et je ne pense pas que notre métier valide en réalité cette projection de un peu bourreau, maître, élève, victime, tu vois, où tu sais pas trop à quel moment qui est qui dans tout ça.
On va dire que la nouvelle génération valide pas trop en montant.
Exactement. Après, je dis ça, j'ai jamais été maltraité, hein, j'ai jamais reçu. Il y a toujours des mythes comme quoi certains ont pu recevoir des codes à la figure ou des choses comme ça. Moi, je ne l'ai jamais reçu, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, donc je tiens à le dire. Mais après, c'est sûr que moi, j'ai passé toutes les premières années à ne faire que travailler. Du matin jusqu'au soir, la nuit, tard, les week-ends, à avoir à peine quelques semaines de vacances dans l'année, et vraiment à peine, parce que quand tu en as 5 semaines, mais qu'il y en a 3 que tu passes à dormir ou à te reposer, c'est pas ce que j'appelle des vacances. Ça s'appelle du repos forcé. Et donc voilà, donc c'est sûr que ce côté-là, mais même moi, j'en veux plus. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu parce que c'était un momentum où ça existait encore et le cabinet avait cette taille et ce côté start-up qui pousse un peu les organismes. Mais aujourd'hui, moi, à 19h15, je suis parti tous les soirs, je retrouve mes filles, je m'occupe de mes filles. Je peux me remettre à travailler s'il le faut, mais vraiment, c'est que si j'ai pas le choix. Et je fais, d'ailleurs, ça, j'espère que les clients n'écouteront pas cette partie-là, c'est que je prends le dernier rendez-vous à 18h, et j'en prends pas après, parce que je sais que sinon, bah, je peux pas être là pour mes filles, et ça me va pas.
Très bien.
Et c'est plutôt pratique parce que ça permet aux collaborateurs, collaboratrices qui travaillent avec moi de connaître les limites et de pas avoir, bah, de connaître les limites dans lesquelles eux ils pourraient être amenés à intervenir dans des réunions et donc de leur permettre aussi de se projeter. Alors s'ils ont déjà des familles, bah, de pouvoir marier les deux. Si c'est pas le cas, de se dire que c'est tout à fait possible d'évoluer. Alors aujourd'hui, je suis quand même encore, même en gros ça, je suis quand même un modèle un peu particulier. Même au cabinet.
Oui, tu veux dire que dans les associés, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui vont partir à 19h pour s'occuper de leur fille.
Non, non, il ne faut pas croire en écoutant ça que c'est tout le monde comme ça. Non, non, je suis un peu précurseur, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, parce que j'ose espérer que vraiment...
Penseur de tendance, peut-être.
Ça ne serait pas comme ça qu'il faut le qualifier. Mais en tout cas, je reste un peu atypique, même voilà, au sein du cabinet, tout en étant un homme en plus. Donc, ça crée... C'est plus facile pour un homme de faire ça que pour une femme, j'en suis intimement convaincu.
Un homme, tout le monde va respecter le fait qu'il fasse ça.
C'est totalement injuste et inégalitaire. C'est qu'un homme, on trouve ça extraordinaire qu'il s'occupe de ses enfants. Et une femme, on va dire, ah, donc encore, tu peux pas être là parce que tu as tes enfants. Donc vraiment, vraiment, j'en suis navré, mais il faut faire évoluer ça.
Voilà, tu vas déjà tenter de faire évoluer ça chez Arsène. Et puis,
exactement.
Après, quand tu seras président. Et du coup, ça m'amène à une autre question, mais à laquelle tu as déjà répondu. Tu n'as du coup aucune frustration de voir que les collabs d'aujourd'hui travaillent moins que toi lorsque tu étais collab, quoi. Parce que ça, j'ai déjà... Ce sont des choses que je peux entendre. Oui, bah moi, il y a 10 ans, je vais te dire que je travaillais beaucoup plus.
Alors, non, mais on peut être amené à le dire pour que, quelque part, tout le cheminement du cabinet, la façon dont il a été créé, c'est aussi son ADN, pour comprendre aussi cette histoire du cabinet. Après, non, je ne m'attends pas à ce qu'ils subissent la même chose. Je ne dirais pas que je l'ai mal vécu, mais a posteriori, je me dis que c'était une hérésie. C'était une hérésie. Mais bon, je me dis, je suis passé associé après en 10 ans, c'était plutôt rapide. Si ça ne s'était pas passé comme ça sur les 10 premières années, potentiellement, j'aurais pris 11-12 ans pour le faire. Parce que c'est un drame, je ne pense pas que ça aurait été un drame pour autant. Même si à l'époque, je ne me voyais pas retarder le passage en la matière. Mais voilà, donc, non, aucune... aucune jalousie ou reproche en la matière, de la même façon qu'aujourd'hui, je sais pas, les collaborateurs chez nous, ils doivent être embauchés à 80 en profession libérale. Moi, j'ai été embauché à 55. Mmh. Donc, il y a une petite différence.
L'inflation.
Grosse inflation. donc, voilà, mais ça, c'est tant mieux. Il faut adapter et il faut partager. C'est une bonne chose. La valeur qui est créée, elle est aussi un peu faite pour tous et toutes.
Et tu me disais tout à l'heure que pour toi, en effet, c'était un métier qui évoluait beaucoup et qu'il y allait encore avoir des évolutions drastiques. On a parlé du volume de travail, etc. Quelles autres évolutions t'identifies ?
Ce qui est certain, dans les choses plus faciles à conceptualiser, c'est le lieu de travail, la façon dont on gère notre quotidien, le télétravail, le fait de vivre potentiellement pas à Paris, à 10 minutes à pied du cabinet. Ça, ce sont des choses qui vont évoluer. Je suis plutôt convaincu. Mais non, davantage dans le partage de la valeur. Aujourd'hui, il y a un peu le côté, tous les cabinets font comme ça, qui est de dire quel est le minimum que je peux payer à un collaborateur, une collaboratrice. Et tout le reste, c'est pour moi. Ou c'est pour nous en tant qu'associés. Voilà, je pense qu'il y a, d'autres méthodes qui vont naître, très probablement pour quelque part embarquer davantage tout à chacun qui participe à la création de la valeur et pas uniquement en opposition à ce que font les autres en disant bah, « Tiens, nous on paye à 80, maintenant le marché paye à 85, bah, tiens, on se recale juste à 85. » Non, il faut trouver d'autres méthodologies. Tu le vois partout, toutes les grandes entreprises, il y a les projets de loi sur le partage de la valeur, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un débat sociétal autour de ça qui est...
Ensuite, il y a quand même pas mal de mécanismes de primes, etc., qui reviennent à des mécanismes d'intéressement en entreprise classique.
Toute une question de quantum.
Ouais.
Si tu poses la question à tout collaborateur, collaboratrice de n'importe quel cabinet, ils te diront tous qu'ils ne sont pas assez payés.
Oui, mais je pense que si tu poses la question à n'importe quel salarié de n'importe quelle entreprise, on te dira tous.
Et de la même façon que tu pourras poser la question à une grande majorité des associés de tous les cabinets, qui vont dire mais ils sont déjà trop payés. et la même chose sur les salariés. Donc il faut peut-être sortir de ce schéma totalement binaire.
Ok, pour une petite direction communiste.
Non,
je ne
m'attendais
pas.
Tu ne t'y attendais pas, je m'en rends compte. De là à dire que c'est politisé, je ne suis pas d'accord.
Très bien. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien d'associés chez Arsène ?
On est 25 associés.
Ok. Et 25 associés en combien ? Toi, tu as des associés au sein de ton département, de ton pôle ?
Voilà, moi, le département qui n'existait pas quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la fiscalité patrimoniale. Il y avait des associés qui pouvaient avoir quelques clients sous cette bannière-là, mais sans avoir créé au cabinet un département, fait des embauches spécifiques en la matière, communiquer, écrire des articles dans les magazines spécialisés, etc. Donc tout ça, moi je m'en suis occupé et le cabinet m'a permis de me développer là-dedans avant de devenir associé.
Okay.
Et donc du coup, voilà, aujourd'hui on est... Alors moi je suis totalement dédié à cette matière, j'ai deux autres associés qui... Ils touchent de façon plus que résiduelle. Ils ont vraiment une practice en la matière. Et après, on est une petite quinzaine en tout. Donc, pas mal de collaborateurs, collaboratrices qui sont dédiés à cela, et il y a un vrai potentiel en plus.
Et comment ça fonctionne pour aller chercher des clients globalement? Est-ce que tout repose sur la notoriété d'Arsène, etc., qui est quand même un cabinet de niche en fiscal très réputé maintenant? Ou est-ce que globalement, il y a des efforts à faire, vous le sentez, vous le voyez, vous en faites
Je vais relier ça avec l'idée de la liberté. Comment tu aides des collaborateurs, collaboratrices à aller atteindre cette liberté professionnelle? C'est de comprendre son marché et de savoir comment aller naviguer sur ce marché-là. Après, je ne dirais pas que tout vient à un moment ou à un autre. Tu fais du développement, tu es dans des conférences, tu écris des articles, tu rencontres des gens. Il y a un moment donné où, à force d'avoir planté comme ça un peu partout, les herbes, elles poussent et tu peux récolter. Ce qui s'est passé, moi, c'est vraiment ce que j'ai pu faire, hein, le moment où, avant de passer associé, où j'ai commencé à rencontrer plein de family office, de notaires, de banques, et voilà, de comprendre comment tout le monde interagissait.
Qui étaient des clients ou des personnes que tu contactais comme ça pour échanger avec eux?
Ça pouvait être, voilà, c'est des personnes qu'on peut rencontrer sur un dossier, tu vas boire un verre, tu vas déjeuner, toutes ces choses-là, en réalité, moi, je passe quasiment la moitié de mon temps à faire du développement.
Ah bah, c'était ma prochaine question.
Voilà. Okay. Non, mais ouais, un gros tiers de mon temps. Après, on a la chance chez Arsène, c'est qu'Arsène est devenu une marque. Il y a très peu de cabinets avocats, je pense, qui peuvent se prévaloir d'une marque en matière fiscale, en tout cas, si je regarde juste ce qu'on a. On en a quelques-uns, mais on n'est pas nombreux. Donc, cette marque porte, mais la marque ne suffit pas. Mais heureusement, tout va bien. Ça veut dire que l'être humain est encore au centre de tout cela. Et non, le développement, c'est beaucoup de relationnel, dans le bon sens du terme. C'est pas des petites affaires entre amis, c'est apprendre à se connaître, que les gens te connaissent, que nous, on a beaucoup écrit des articles qui faisaient parfois des dizaines et dizaines de pages sur des thèmes techniques extrêmement complexes et qui intéressent. Et donc, ça veut dire que tu crées une crédibilité autour d'Arsène et de ton nom de façon plus spécifique sur des thématiques, et ce qui fait qu'après, on est dans un marché qui est intermédié, en quelque sorte. Moi, je fais beaucoup, c'est du B2B2C. C'est-à-dire que le client final, il vient rarement me voir directement.
Ok.
Il est toujours à « tiens, j'ai mon banquier, j'ai besoin d'un avocat parce que mon avocat part à la retraite et qu'il n'a pas prévu de successeur ou de successrice, bah, j'ai besoin d'un avocat. » Ah, là, le banquier qui me connaît, bah, il me donne mon nom comme il peut donner un ou deux autres noms à côté, et puis bah, le client finit par choisir. Et c'est ça, en réalité, dans les trois quarts, si ce n'est plus, des clients que moi, je peux avoir sur les dernières années, c'est toujours de l'intermédiaire. Donc, ça facilite quelque part, parce que aller chercher le client final, ce n'est pas évident.
Ouais.
Savoir ce qui l'intéresse, à quel moment ça l'intéresse.
Bah, surtout en B2C, c'est plus délicat.
Voilà. Alors que connaître quelqu'un, certaines banques, certains notaires, certains family office, ça permet comme cela d'être au bon moment, au bon endroit.
Et les actions de notoriété que tu as menées, donc tu parlais d'articles, qui étaient plutôt donc des articles scientifiques à destination de confrères, quoi,
de confrères,
de techniciens.
Voilà,
quoi.
De techniciens, de family office.
Donc, encore une fois, pas du client final, pour le coup.
D'ingénieurs patrimoniaux de banque, etc. Donc, il y a ces articles-là. Après, il y a des interviews type Echo, Challenge, etc.
Ouais, et tous ces trucs-là, tu les obtiens comment?
Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on a une agence qui s'appelle Enderby.
Ok.
Et qui...
Bah, on bosse avec une agence
qui travaille pour nous placer, tout en sachant que, en toute humilité, je suis le produit le plus facile à placer. Parce que je parle de fiscalité patrimoniale.
Oui, donc tu parles aux gens de...
J'arrive à parler à un grand pourcentage de la population. là où mon associé en prix de transfert ou en TVA, ça peut être un
moins
petit
glamour.
Peu moins mainstream. glamour, je ne sais pas. Tout ça, c'est une question de passion. mais voilà, c'est moins mainstream. Donc, pour moi, je suis un peu le produit le plus facile. Toutes les revues, Le Revenu, Le Particulier, Challenge, Les Échos... Voilà, ça c'est, on va dire, de la presse papier quotidienne ou hebdomadaire. Et après, il y a des... Moi, depuis peu, je passe régulièrement sur BFM Business.
Dans J'ai vu ça.
tout pour investir.
Et ça, c'est une intervention qui est, dès le départ, définie comme régulière ou
non.
C'est en fonction des sujets?
Non, c'est une émission qui a démarré donc c'est tout pour investir sur BFM Business avec Laurent Goumont, et qui a démarré fin août. Ils ont, je crois, quatre invités par matinée. Donc, tu vois, 5 jours par semaine, toutes les semaines de l'année, ça fait quand même un volume important. Et bah, ils n'avaient personne pour parler de fiscalité. Moi, je suis intervenu sur un premier thème qu'ils avaient défini. Et ça s'est bien passé. Et du coup, bah, ils sont plutôt preneurs d'une récurrence, parce que c'est pour eux plutôt bien d'avoir des visages qui reviennent. Et puis, bah, potentiellement, ça facilite aussi, si tu dois aller chercher un nouvel avocat fiscaliste à chaque fois que tu veux parler de fiscalité, le travail peut être un peu plus long. Et
nouvelle casquette de chroniqueur.
Et voilà, non, pas encore. Je pourrais pas dire que je n'ai pas de contrat avec BFM Business, mais non, c'est plein de surprises. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut avoir envie d'aller parler, mais il y a une part de trac qui est assez, il y a beaucoup d'adrénaline. Parce que c'est quand même en direct, alors il n'y a pas de public, etc. Ouais. Donc ça libère quand même. Puis on n'est pas dans un débat non plus. C'est-à-dire que c'est une question et une réponse, une question
et
une réponse.
Et on ne t'envoie pas des questions avant ? Enfin, tu ne prépares pas du tout
Non, souvent la façon dont ça se passe, c'est qu'ils définissent le thème, ou on définit ensemble le thème. Moi, je leur donne les idées qu'ils peuvent y avoir sur ce thème-là, et ils en structurent, hein, des premières questions pour lancer. Et après, en fonction aussi des thèmes et à quel point ça peut susciter de l'intérêt, il y a les auditeurs et les auditrices qui peuvent poser leurs propres questions.
Ah, en live ?
En live.
Et c'est là où c'est le stress.
Non, c'est pas que c'est le stress, c'est que t'as quand même une journaliste qui lit ça en live et donc qui a besoin de le digérer en live avant de te le retranscrire. La journaliste et toi, vous parlez pas forcément le même langage, en tout cas d'un point de vue technique fiscal, je dirais il faut rester pédagogique, ou elle veut l'être le plus possible, et moi parfois je peux pas non plus être 100% en dehors de la sémantique ou de concepts qui peuvent paraître abscons vu de l'extérieur. Et donc voilà, non c'est intéressant, après il faut savoir c'est du rebond quoi, mais c'est en termes d'adrénaline, je trouve ça extraordinaire.
En vrai ça doit être sympa. Et t'aimes bien ces côtés développement, enfin voilà, un peu les petits bonus aussi, les petits trucs en plus qui te sortent la tête du quotidien.
Ça te sort totalement de l'ordinaire, ça permet de toujours donner l'eau à ton moulin, tu continues d'avancer. Toute l'idée aussi ici, c'est d'aller sur des thèmes bah, naturellement qui les intéressent, mais aussi de voir dans quelle mesure on peut pousser plus loin de la technique fiscale pour aller sur de la politique fiscale, parce que c'est ça aussi, c'est de voir comment... tu peux impulser, en tout cas suivre un mouvement ou impulser un mouvement en matière d'évolution de la fiscalité. Ça, c'est un autre objectif, ça.
Et tu as pu mesurer, là, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Et le BFM, tu as dit depuis août ?
Je l'ai fait 3 fois.
Tu l'as fait 3 fois ?
Ouais, tous les 15 jours, 3 semaines.
Et ensuite, tous les articles que tu as pu écrire, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez, toi, à ton échelle et de manière générale chez Arsène ? Peut-être via l'agence qui vous place, j'en sais rien. L'impact de ces interventions. Est-ce que, je ne sais pas, le nombre de visites sur votre site augmente ? Est-ce que, lorsque vous avez des nouveaux clients, vous leur demandez un petit peu où est-ce qu'ils vous ont vu et ce sont des choses qui ressortent ? Ou est-ce que finalement, c'est difficilement quantifiable ?
C'est difficilement quantifiable, mais ça a du sens. Je vais prendre un exemple. Il y a une banque où je ne connaissais pas à titre personnel celles et ceux qui dirigeaient l'ingénierie patrimoniale, qui un jour, en voulant écrire à son client en disant bah voilà, je vous donne 3 noms d'avocats comme vous m'avez demandé, ils me l'ont envoyé à moi. Et j'étais dans ces noms-là, je ne les connaissais ni Nev ni Adam.
Ah oui.
Et juste en mettant, ils écrivent des articles sur telle thématique, etc. Très bien écrit. Bon, toi, le côté très sympathique à lire, c'est toujours très agréable. Et donc, à ce moment-là, je leur ai répondu en disant, je suis navré, je pense que je n'étais pas le destinataire de votre email, mais je serais ravi de vous rencontrer. Et donc, toi, depuis, c'est des personnes avec qui j'ai pu échanger et avoir des dossiers avec eux.
Oui, donc de manière tangible, ça t'a apporté quand même des clients, tu le sais.
De manière tangible, ça m'a apporté des clients. Après, combien, quand, oui. Mais c'est pas ça le sujet en réalité. C'est la crédibilité que tu crées autour de la marque Arsène, du cabinet et du département en fiscalité patrimoniale qui se joue là.
Et donc Arsène, tu me disais 180 aujourd'hui, les perspectives de croissance sont infinies, ou est-ce qu'il y a il y a une philosophie, un état d'esprit où on se dit qu'on ne veut pas aller au-delà de telle taille.
Il n'y a pas cette philosophie-là. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Je pense que ce serait dommageable de changer notre fusil d'épaule en la matière, parce que la croissance, ça permet surtout de donner des perspectives à la personne avec qui on travaille, qui sont collaboratrices, collaborateurs aujourd'hui. Si tu commences à dire que pour rentrer, il faut qu'il y en ait un qui sorte, bah, tu termines, tu fermes la boucle et malheureusement, je pense que tu perds plus de force vive que tu ne crées de valeur. Et puis surtout, on a un marché qui est extraordinaire. La fiscalité, quand tout va bien, il y a de la fiscalité. Quand tout va mal, il y a de la fiscalité. Quand ça va ni bien ni mal, il y a de la fiscalité. Non, mais c'est pour ça. Et nous, on a notre sécu à nous, si je puis dire, c'est l'administration fiscale. Quand l'administration fiscale...
Tu vas toujours venir vous mettre des petits bâtons dans les roues, quoi qu'il arrive.
Non, je dirais pas ça, parce que... Bah, non, mais on travaille en très bonne intelligence avec l'administration fiscale. L'idée, c'est dans l'intérêt des clients d'avoir de bonnes relations avec l'administration fiscale. Mais quand l'administration fiscale commence un contrôle fiscal d'un client, bah, c'est un dossier qu'on n'avait pas anticipé nécessairement. Donc, ça crée du volume, ça crée des dossiers supplémentaires à suivre. Et donc voilà, c'est un peu, comme je disais, notre sécu à nous là-dessus. Mais si je regarde juste la fiscalité patrimoniale, et si des personnes veulent faire de la fiscalité, qu'ils aillent en fiscalité patrimoniale, parce que déjà, c'est une matière qui est extraordinaire de lien avec les autres matières, parce qu'on ne fait pas de fiscalité patrimoniale sans faire du droit civil, du droit de succession, du droit matrimonial, du droit des sociétés. Donc tout ça est imbriqué nécessairement, donc on ne s'ennuie pas. Et derrière, on a un terrain de jeu qui est fabuleux, parce que y a de plus en plus de personnes qui ont des besoins en la matière, que ces personnes-là se rendent compte qu'ils ont ces besoins-là, et qu'en plus, historiquement, les personnes qui étaient déjà accompagnées étaient accompagnées par des généralistes. Parce que il y a 40 ans, les gens étaient généralistes. Il n'y avait pas des spécialistes en matière de fiscalité patrimoniale. Aujourd'hui, les quelques confrères, consoeurs qui ont autour de 60 ans, ils ne sont pas très, très nombreux à être marqués sous ce sceau-là. Et donc voilà, donc il y a vraiment un boom avec justement le papy boom qu'on va aborder, qui fait qu'il y a une demande qui ne fait que croître et on n'est pas très très nombreux en réalité sur le marché en la matière.
Ok, donc un conseil pour les étudiants en droit, go en fiscalité patrimoniale quoi.
Nécessairement.
Histoire d'agrandir son équipe.
Histoire d'agrandir l'équipe qui, voilà, nous on a à peu près tous les 6 mois une nouvelle personne qui arrive.
Ah ouais. Ça va devenir la plus grosse équipe chez Arsène.
Alors, pas encore. Il y en a quelques-unes qui sont sacrément étoffées. Mais c'est sûr que nous, ce n'est qu'une équipe. On est une petite quinzaine. Mais déjà, en étant une petite quinzaine, on est l'un des plus gros cabinets en matière patrimoniale à Paris. Parce que la plupart de nos concurrents sont plutôt constitués sous forme de boutique. Et il peut y avoir un ou deux associés, quelques collaborateurs, collaboratrices. Mais... souvent, ça reste assez intimiste. Mm-hmm. Nous, avec une quinzaine, on a une force de frappe qui est bien là.
Sur tes 13 ans d'expérience, question un peu intense, un peu profonde.
Laquelle j'ai préférée, la 12e.
Non, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment, un truc où tu t'es planté et là tu pourrais donner un petit conseil de dire ne faites jamais ça, ou est-ce que tu viens dans tes baskets avec tout ce que tu as entrepris sur ces 13 ans?
Alors, en fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance à des périodes où j'ai eu des doutes. Parce que forcément, quand tu passes autant de temps dans le même cabinet, surtout quand tu as aux alentours de 4-5 ans d'ancienneté, il y a les chasseurs de tête qui t'appellent à peu près entre une à deux fois par semaine. Mais vraiment, et c'est pas parce que tu es bon ou pas bon, que ce soit, c'est juste parce qu'il y a une demande qui est vraiment sur cette ancienneté-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai perdu ma mère en 2018. Et c'est vrai que ça a été un grand moment de remise en question de beaucoup de choses. Voilà, j'ai eu l'occasion, par exemple, à ce moment-là, de faire un détachement dans une entreprise. Oh. Et donc, ça m'a permis de me couper un peu du cabinet, du quotidien.
T'as fait ça pendant combien de temps ?
J'ai fait ça pendant presque 6 mois.
Ok.
Et donc, quand il y a eu des moments comme ça de doute, j'ai pu avoir ça comme un peu échappatoire. J'ai toujours répondu à quelques... quelques chasseurs de tête, mais pas trop, tu vois. J'en avais choisi un avec qui j'avais une certaine confiance, qui m'avait proposé. Voilà, j'ai passé quelques entretiens à droite à gauche pour voir ce que ça donnait, mais j'ai jamais été plus loin au final.
Te rassurer sur ta valeur sur le marché, non.
C'est pas forcément la valeur mais sur le marché.
Voir un peu ce qui se fait
ouais,
aussi.
C'était de se dire, on va pas finir idiot, quoi. Si je finis associé ici, et que tout se passe bien, je touche du bois, que je passe encore 30 ans comme ça. J'aurais fait toute ma carrière dans un seul et même cabinet. Donc, au moins que j'ai pu passer des entretiens pour savoir si à un moment je voulais partir ailleurs. Donc non, ça c'est sûr que c'est des discussions qui sont saines, je trouve saines à avoir. Et après, à chaque fois que j'ai dû vraiment les mettre en perspective, réellement le projet Arsène était sans commune mesure bien devant les autres.
Superbe.
Donc non, souvent des périodes de doute. Mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir fait le pas de côté qui fasse tout exploser, si je puis dire. Et après,
non, mais petite prise de distance quand même.
Voilà, tu as essayé de jamais réagir à chaud. Moi, je me souviens, voilà, encore une fois, quand j'ai perdu ma mère, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas des avocats. Je suis allé les voir, j'allais leur parler, leur demander de me parler de leur métier. J'ai fait un podcast, mais sans l'enregistrer. pour leur parler de leur métier, ce qu'ils faisaient, pour voir si.
Un plan de profession qui t'intéressait pour savoir si tu voulais devenir boucher ou.
Non, ça restait dans la fiscalité. Mais à un moment, il y avait une personne que humainement j'apprécie beaucoup et qui s'occupe d'une grande famille, mais pas du côté avocat, qui est internalisé un peu en mode family office, ouais. Mono family office. et donc, j'ai beaucoup parlé avec lui pour comprendre ce qu'il faisait, pourquoi il avait fait, pourquoi il avait quitté le métier d'avocat pour intégrer, etc. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui permettent aussi de prendre un peu de distance sur la réaction à chaud, qui n'est jamais très, très bonne. Et même, moi, ça m'est arrivé à des moments de doute où j'en ai parlé avec mon boss. Forcément, il avait un prisme. Je le savais qu'il me dirait des choses de façon assez subjective et très orientée. Mais voilà, le besoin un peu la cure par la parole. Il y a besoin que les choses sortent pour pouvoir les digérer aussi.
Très bien. Eh ben, c'est une belle conclusion. À moins que tu aies un dernier message fort à faire passer.
Voilà, maintenant tu me mets mal à l'aise. Non, je n'ai pas de message fort, à part que la fiscalité patrimoniale est un métier d'avenir.
Superbe. Et ben, merci beaucoup, Olivier.
Avec plaisir.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.